Et donc, j'ai démarré tout seul. Et puis là, Renaud, mon associé, me rejoint. Et en fait, il me rejoint d'une manière un peu étonnante. C'est que, en fait, lui, il voulait faire de la finance. Et puis, il était donc pris à ce qu'on appelait les summer internships. C'était en gros, c'est les stages d'été dans les banques.
En banque d'affaires.
Exactement. Ouais. Lui, plutôt finance de marché, etc. Et puis, c'est le genre de truc, on me dit que t'es pris en janvier, mais ça commence en juin. Donc, du coup, t'as 5 mois à rien foutre. Et donc, lui, il voulait pas ça. Il s'est dit, bah, écoute, je veux bien te filer un coup de main. Puis après, on se débrouille, on fait un partage de revenus, etc., etc. Et puis, comme ça, moi, je suis pas là à rien foutre, j'apprends des trucs, je te file un coup de main, etc. Et ça s'est très bien passé, justement, parce qu'on était très complémentaires, et que tout seul, c'est beaucoup plus dur, qu'à deux. Et que il s'est dit ben moi ça me plairait bien de continuer en fait et de pas aller à et de pas aller en banque et juste de continuer l'aventure avec toi. Et on a négocié le partage des parts dans le métro en revenant de petite soirée de notre école de commerce et puis l'aventure a démarré comme ça.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club et aujourd'hui, je reçois Jean-Samuel, le cofondateur et président de Ringover. Bienvenue Jean-Samuel.
Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup.
Très content là. Je sais que t'es chaud là, ça fait une demi-heure qu'on discute.
Ouais,
tu croyais même que l'épisode avait commencé. Ouais. on était bien là. Donc, on va essayer de garder, on va dire, le même niveau de qualité. Donc rapidement, Ringover, c'est une... Moi, je le définis comme ça avec mes mots et puis après, on pourra rentrer dans les spécificités, mais le socle, hein, c'est quand même une solution de téléphonie en entreprise avec plein de petits produits autour. Donc, on va revenir dessus. Vous avez plus de 10 000 clients aujourd'hui, 300 employés répartis dans 5 bureaux, dont un aux US à Atlanta. Et comme je te le disais, on va pas refaire tout l'historique parce que Ringover a eu 1000 vies depuis 2005, date de la création. On va faire un focus en particulier sur l'hypercroissance et donc ce que j'appelle la deuxième vie de Ringover. Un peu comme celle-ci. Vous vous connaissez avec celle-ci
ouais, ouais. C'est un partenaire. On est intégré avec leurs produits. Ringover et celle-ci fonctionnent très bien ensemble d'ailleurs. Donc, on se connaît un peu. On se donne des leads de temps en temps. Non, ça marche. Enfin, les deux solutions marchent bien ensemble, ouais.
Mais c'est marrant, ouais, le parallèle, vous avez globalement tous les deux eu un parcours auto-financé avant d'avoir de belles levées de fonds qui vous ont permis derrière d'accélérer. Donc ça va être ça le programme aujourd'hui. Mais écoute, avant ça, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
Alors, je suis Jean-Samuel Najdundel, je suis un des cofondateurs de Ringover. Donc tu posais la question, qu'est-ce que j'ai fait avant? Ben, à vrai dire, pas grand-chose. J'ai tout de suite voulu créer ma boîte, quasiment. Si on remonte vraiment très loin, c'est moi j'étais toujours passionné par tout ce qui était informatique et puis télécom aussi. Hein. Ça a l'air bizarre de dire passionné par les télécoms, mais si, parce que moi quand j'étais au collège, lycée, c'était le milieu des années 90 avec quand même le démarrage de deux innovations quand même somme toute assez majeures, c'est-à-dire le téléphone mobile et Internet, ou plutôt l'Internet accessible au grand public, parce qu'Internet existait depuis 20 ans avant, mais disons l'Internet qui devenait accessible au grand public. Et c'est vraiment à cette période-là que c'est arrivé. Et quand tu découvres un truc qui n'est rien de moins que Internet, c'est assez fascinant, surtout que moi, j'étais passionné par l'informatique depuis mon enfance. Donc c'était vraiment une époque extraordinaire et moi je me suis dit, voilà, moi c'est ça que je veux faire. Donc tout de suite, et je voulais créer une boîte parce que créer une boîte, tu peux tenter les trucs que tu as envie de tenter. Et ça, ça me plaisait beaucoup. J'ai donc fait une prépa scientifique, déjà par choix et aussi parce que en fait, sur les autres matières, j'étais quand même pas hyper bon. J'étais un peu le un peu caricatural, qui est bon en maths, physique et pas très bon dans le reste. Voilà. Donc c'était un choix assez naturel.
Chacun ses qualités. Hein. Pour moi, c'est l'inverse. C'était l'inverse. Hein.
Donc c'était assez naturel en fait, plus qu'un choix de stratégique en fait. Et puis finalement, j'ai passé des années exceptionnelles en prépa. C'était très intéressant et je me suis vraiment bien marré en plus. Ce qui est pas ce que tout le monde raconte, mais moi je me.
C'est ce que j'allais
moi,
dire.
Je me suis bien marré. Et puis, mais bon, peut-être un peu trop parce que j'ai pas trop eu les concours que je voulais. Donc, école d'ingénieur, j'ai pas forcément eu ce que je voulais. Je me suis dit, bah finalement, je peux continuer à me former finalement un peu tout seul comme je l'ai fait sur la partie ingé. Et si je tentais une école de commerce pour me donner justement toutes les bases dont je peux avoir besoin justement pour créer ma boîte. Et donc là, je passe par une admission parallèle qui n'existe plus. C'était une admission parallèle qui était faite pour introduire un peu de diversité de profils dans les écoles de commerce, et enfin là où j'étais. Et en fait, il y avait que des gens de Dauphine et des gens de prépa scientifique, donc c'était pas du tout la diversité qu'ils attendaient. Donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? On ferme le concours. Mais ils l'ont fermé juste après moi, donc du coup, je me suis glissé par la petite porte en école de commerce. Et à partir de là, il fallait faire des stages. Donc je me suis dit, bah ça tombe bien, je vais essayer une grosse boîte, comme ça, au moins, voilà, j'aime bien dire ça comme ça, c'est un peu comme les enfants avec les épinards, avant de dire qu'on n'aime pas, faut goûter, même si les épinards, c'est très bon. Et donc, je suis allé 2 mois et demi en stage de première année chez SFR. Au début, on découvre, donc c'est hyper intéressant, donc c'est top, évidemment. Mais après, bon, bah, c'était pas mon truc. Après l'effet découverte des premières semaines, c'était moins mon truc. Donc, je me suis dit, non, c'est bien créer une petite boîte que j'ai envie de faire. Et là, donc, je crée une boîte, mais double erreur. Enfin, si on avait que deux, même plein d'erreurs. Je la crée tout seul. Et moi, je salue tous les solopreneurs parce que je trouve que c'est hyper dur. Et moi je n'y suis jamais arrivé. Donc, j'essaye. Et je ne réussis pas. En plus, parce que c'était moins mon cœur de préoccupation, je le fais en même temps que les études. Finalement, je pense que pour réussir, il faut être vraiment à fond et à 100% sur ce qu'on fait. Et en fait, j'étais un peu sur mes études, un peu sur ma boîte. Et donc, du coup, bah, ça n'a pas marché. Puis, je n'avais pas la rigueur qu'il fallait. Je n'avais pas toutes les compétences qu'il fallait, etc., etc. Donc, la boîte ne marche pas. Ensuite, je pars en accord d'échange en Thaïlande. Pour faire ma dernière année d'école, et là je me perçois que finalement en plus la gérer à distance ça n'a pas de sens. Mon dernier client me plante, donc je me dis bah, en fait si je n'ai plus de revenus, si je suis en plus très loin, je pense que je vais fermer l'entreprise. Donc là je ferme l'entreprise. Ensuite je finis mes études, et puis comme beaucoup de gens, je me dis ouais, je cherche l'idée du siècle, il faut l'idée pour entreprendre. Il y a une croyance qui est qu'il faut l'idée pour entreprendre. Et bien je pense que quand on l'a, c'est bien, mais que dans 99% des cas, en fait, c'est faux. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'idée. En tout cas, il n'y a pas besoin d'une idée qui va révolutionner le monde tout de suite. Il y a des gens, ils créent des boîtes, par exemple, ils créent des boulangeries. La boulangerie, ça existe depuis des siècles. Il y en a des milliers. Et pourtant, en fait, bah, ils arrivent à bouffer. Ils créent de la valeur, ils sont utiles, ils gagnent de l'argent. Donc, on n'est pas obligé d'avoir l'idée originale du siècle avant de créer une boîte. Mais ça, je le savais pas. Donc, dans mon naïveté ou mon arrogance, je me suis dit, bah, je vais le trouver, etc. Mais comment je le trouvais ? J'étais tout seul à rien foutre chez maman. Et en fait, bah, évidemment, il n'y a pas une idée du siècle qui m'est venue en parlant pas trop aux gens, en étant tout seul à réfléchir en vase clos. Donc, ça ne marchait pas. Donc, ça faisait quand même 4-5 mois que je foutais rien. Et là, j'ai un copain, il vient me voir, et je pense que c'est vraiment une. Il m'a dit quelque chose qui a vraiment, je pense, changé. Enfin, c'est changé un petit peu ce qu'aurait pu autrement être ma vie professionnelle. Il m'a dit, mais l'idée du siècle, laisse tomber, tu la trouveras pas, parce que par définition, il n'y en a qu'une par siècle, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit pour toi. Donc crée un truc, et au moins tu seras dans une activité, ça sera concret, ça sera réel, et là, les idées te viendront. Et ça, c'est un excellent conseil. Donc il m'a dit très concrètement, il m'a dit, ok, on va trouver ton métier là. Cite-moi, t'aimes les télécoms, tu veux faire des télécoms, tu veux faire du logiciel, tu veux faire de l'informatique, ok, dans ce domaine-là que t'aimes là, quel est le service que tu utilises? Alors là, je lui ai parlé d'un service d'appel internationaux, etc., etc., que j'utilisais au quotidien. Il dit, bon, bah, tu t'en sers. Donc ça veut dire que c'est utile à des gens. Donc, si c'est utile à des gens, ça veut dire que tu pourras avoir des clients. Donc tu sais quoi? Tu fais la même chose. Tu copies ce service. Tu fais ni mieux ni moins bien, tu fais le même service. Puis tu verras, c'est un marché vaste, donc tu auras ta petite place et tu auras de quoi bouffer. Donc là, je copie ce service que j'utilisais à l'époque, qui s'appelait Télérabais, c'était un service d'appel international à prix réduit. Donc on fait le même, on s'appelle Téléfuté, et on lance ça. Et à partir de là, effectivement, je suis face à des clients, à des besoins clients, j'ai du matériel, j'ai de l'infrastructure, et je peux commencer à jouer avec. Je peux jouer avec un peu de techno. J'ai des vrais usages, j'ai un peu de revenus, donc j'ose dépenser un peu d'argent, vu que c'est pas de l'argent de papa-maman, c'est toujours un peu gênant de dépenser de l'argent de papa-maman pour tenter des trucs. Par contre, l'argent qu'on a gagné soi-même avec ses clients, bah, finalement, on peut plus le réinvestir, le tenter, etc. Donc, on commence à tenter des trucs, avec mon associé, et puis là, nous viennent des idées assez originales. Ça paraît un peu naze aujourd'hui parce que les usages ont beaucoup changé. Mais à l'époque, on a été en 2006 ou 2007, je sais plus, les premiers en France à faire un système qui permettait de déposer un message directement sur le répondeur d'un téléphone mobile. À l'époque où les gens écoutaient leur messagerie vocale, aujourd'hui c'est fini. Ouais. À l'époque, ils écoutaient leur messagerie vocale, et donc ça permettait, quand on n'avait pas le temps, pas envie de parler à quelqu'un, de laisser un message directement. C'était plus simple que de taper par SMS, surtout qu'à l'époque c'était T9, hein, lettre par lettre. C'était pas comme aujourd'hui. Et ça permettait donc le petit message vocal déposé directement sur la boîte mail en quelques secondes. C'est très efficace et on a été les premiers à créer ça. Donc, en termes d'innovation, c'est pas SpaceX, quoi. Mais, en revanche, à notre niveau, on a commencé à apporter de l'innovation et puis, progressivement, on a créé comme ça plein de petits services, qui étaient, finalement beaucoup plus innovants que notre métier d'origine. Et là, on s'est retrouvé, avec 5, 10, 15 services qui, mis bout à bout, en fait, nous apportaient un peu de revenus. Et notre modèle financier, notre modèle de développement, c'était le vieux service finance le développement du nouveau. Et ainsi de suite. Mmh. Et à la fin, on en avait une quinzaine. Et à la fin, on avait un
quand tu dis 15 services, là, du coup, c'est quoi? C'est 15 produits différents?
Ouais, 15 produits différents, ouais. Mais il y avait des trucs qui apportaient, genre, 200 balles par mois. C'était pas 15 fois Ringover. C'était 15 tout petits services. Et puis un jour, on s'est dit, faut faire un truc un peu plus ambitieux, un peu plus marrant techniquement, et puis un truc qui est vraiment très utile, parce que nos services étaient utiles, sinon on gagnerait pas d'argent, mais on voulait faire un truc vraiment qui change vraiment les usages. D'ailleurs, je dis on depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai été tout seul pendant 3 mois sur Ringover aujourd'hui, mais mon associé m'a rejoint très vite, en fait. Mon associé Renaud.
C'est l'associé qui t'avait donné ce conseil?
Non.
Enfin,
c'est celui qui a failli être mon associé qui m'a donné ce conseil, qui finalement n'est pas venu.
Okay.
Et donc, j'ai démarré tout seul. Et puis là, Renaud, mon associé, me rejoint. Et en fait, il me rejoint d'une manière un peu étonnante. C'est que, en fait, lui, il voulait faire de la finance. Et puis il était donc pris à ce qu'on appelait les summer internships, c'était en gros c'est les stages d'été dans les banques.
En banque d'affaires.
Exactement. Ouais. Lui plutôt finance de marché, etc. Et puis c'est le genre de truc, on me dit que t'es pris en janvier, mais ça commence en juin. Donc du coup t'as 5 mois à rien foutre. Et donc lui il voulait pas ça. Il s'est dit écoute, je veux bien te filer un coup de main. Puis après on se débrouille, on fait un partage de revenus, etc., etc. Et puis comme ça moi je suis pas là à rien foutre, j'apprends des trucs, je te file un coup de main, etc. Et ça s'est très bien passé, justement parce qu'on était très complémentaires et que tout seul, c'est beaucoup plus dur qu'à deux. Et qu'il s'est dit, moi, ça me plairait bien de continuer, en fait, et de pas aller en banque, et juste de continuer l'aventure avec toi. et on a négocié le partage des parts dans le métro en venant de petite soirée de notre école de commerce. Et puis l'aventure a démarré comme ça. Enfin, c'est concrétisé comme ça. Et puis là, arrive juste...
C'est énorme parce que là-dessus, le choix de l'associé, c'est quand même quelque chose d'assez critique. Et vous, ça s'est fait assez naturellement. Vous avez eu la chance quand même que ça fitte super bien. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a toujours des discussions, des fois, des désaccords. Mais c'est vrai que des fois, on pourrait se dire, OK, c'est quand même une décision importante. Il faut vraiment que je benchmark, qu'on discute vraiment... ensemble de nos envies, de nos aspirations, et vous, ça s'est fait comme ça, quoi.
Ben, en fait, comme c'est hyper important ce que tu dis, et c'est hyper vrai, parce que moi, je suis quelqu'un qui parfois est un peu indécis. Donc, si j'avais dû sciemment choisir mon associé, je pense que j'aurais mis plein de temps, je me serais pris la tête, et j'aurais peut-être pas choisi les bonnes personnes en plus. Et le fait qu'ils viennent en mode, vas-y, je te file juste un coup de main, bah, du coup, il y a le côté pas très engageant. Enfin, on se dit pas, bah, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est juste quelques mois, c'est juste un coup de pouce. Mais ça nous a appris à nous connaître. Ça m'a appris à découvrir une chose hyper importante, c'est que ce qui est important, c'est pas d'être pareil, surtout pas, c'est la complémentarité. Et le fait qu'on soit différent, le fait qu'on se complète et que du coup qu'on se marche pas dessus et qu'on s'entraide vraiment, c'est hyper important. En fait, naturellement, moi, je serais allé chercher quelqu'un qui est pareil que moi. Et en fait, ça aurait jamais marché parce qu'en fait, j'aurais personne pour me modérer, pour m'équilibrer. Et j'aurais eu quelque chose qui savait faire la même chose que moi, qui pensait comme moi. Et donc, du coup, on se serait juste marché dessus et on se serait pas mis en question. Et ça aurait pas marché, en fait. Et donc, j'aurais fait, je pense, un mauvais choix. Et là, j'ai fait un bon choix sans me rendre compte que je faisais un choix. Parce qu'après, c'était une évidence. Ça faisait 6 mois qu'on bossait ensemble. Ça se passait bien. Il n'y a pas de raison d'arrêter, quoi. Je veux dire, il avait envie, j'avais envie. C'était... Et puis, enfin, ça marchait bien. Enfin, à notre petite échelle, hein. Une boîte de 2 personnes, donc c'était pas non plus. Ouais. C'était pas.
2 personnes, 15 services.
Ouais, c'était pas une boîte énorme. Mais non, 15 services, c'est pas à 2. On était une trentaine quand on était monté à 15 déjà, services. Okay. Mais bref, ça s'est fait tellement naturellement que, en fait, il n'y a pas eu à. Finalement, enfin, la décision était assez naturelle. Et ça, c'est une grande chance que j'ai eue. Que ça se passe comme ça, que je tombe plus sur quelqu'un de qui a toutes les qualités d'un bon associé, c'est-à-dire quelqu'un de complémentaire, quelqu'un de compétent, quelqu'un de rigoureux sans être chiant, et puis quelqu'un de réglo aussi. Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, la confiance, c'est clé. Et c'est quelqu'un qui fera jamais de coup tordu, en fait. Et ça crée une espèce de sérénité qui fait que, pour entreprendre, c'est tellement mieux, quoi.
Il y a déjà assez de problèmes à gérer en chemin. Si tu peux t'enlever celui-là,
non, c'est sûr.
Tant mieux.
C'est sûr. Et donc ça, c'est, je dirais, la première phase de l'entreprise. Donc qui dure jusque, je dirais, à peu près 2013. Et puis là, on commence à.
Donc de 2005 à 2013, vous développez les 15 services juste pour bien
c'est
comprendre,
ça,
c'est ça.
Et c'est.
Ok. Et vous recrutez en parallèle.
Bon, on recrute
une équipe.
Progressivement une équipe. Et donc on est passé de 2 à une trentaine en une grosse dizaine d'années. Donc c'est très progressif. Et puis en plus, c'est un management très direct. On déjeunait quasiment tous les jours tous ensemble. On faisait la cuisine à tour de rôle où il y avait une cuisinière qui nous aidait de temps en temps, etc. Enfin, c'était vraiment... Donc, cette convivialité autour du repas faisait que finalement, la communication interne, c'était un non-sujet. Ça se faisait tout seul et c'était hyper simple. En plus, on n'était pas beaucoup. Et puis là, donc quelques années avant, était venu nous rejoindre donc Ludovic, et donc il était sur pas mal de projets. Et là, déjà, on commençait à se dire, faut quand même aller chercher un peu plus d'ambition, etc. Des projets un petit peu plus ambitieux. On a tenté pas mal de choses, et à un moment, Ludovic arrive et vient nous voir et nous montre la technologie WebRTC, qui permet de passer des flux audio vidéo directement dans le navigateur. Mmh. Et pendant des années, on s'est dit, non, on n'a pas envie de faire de téléphonie pour les entreprises, parce que installer un téléphone dans chaque bureau de chaque client, en fait, ça, on veut pas, parce que c'est très lourd pour une petite entreprise de faire ça en termes de logistique, d'organisation, etc., etc. Puis c'est des coûts
même
élevés.
Financièrement, enfin, c'est lourd. Le BFR, tout ça.
Donc, on s'est dit, on touche pas à ça. Et puis là, Ludovic vient nous voir, il nous montre la technologie WebRTC. Qu'est-ce que permet la technologie WebRTC? Elle permet de dématérialiser complètement la téléphonie, c'est-à-dire de mettre la téléphonie dans le navigateur web. Et donc, ça veut dire qu'on n'a même pas de matériel à installer, mais même pas de logiciel à installer. Et ça, ça a changé tout. Mmh. Ça dématérialisait le téléphone et ça transformait le téléphone en SaaS, en fait. Avant, la téléphonie, c'est quelque chose de très traditionnel. Et là, le téléphone devenait logiciel. Et ça voulait dire qu'en plus, on pouvait rajouter plein de fonctionnalités autour pour rendre la vie de nos clients plus belle. Ce qui n'est pas le cas avec un téléphone physique qui est finalement assez figé. Donc, on s'est dit, ça simplifie la logistique, ça permet de l'innovation. C'est plus souple. C'est génial. Et on se dit pas ça juste en analysant la technologie WebRTC, c'est que là c'est là que Ludovic a été très bon, c'est que au lieu de juste nous faire un grand discours théorique sur le WebRTC, qui aurait néanmoins été très intéressant mais pas suffisant, il fait un prototype de la toute première version de Ringover, qui est un simple téléphone dans le navigateur web. Et là, avec Renaud, on voit ça, on dit oh putain, c'est génial, c'est ça qu'on veut faire. Et là, tout le monde est à fond et donc suit donc Ludo, qui aujourd'hui est le directeur technique et produit, pour développer ce produit-là et qui aujourd'hui mobilise 99% des ressources humaines et financières de l'entreprise. On a d'ailleurs des vieux services qui tournent toujours, hein, qui nous apportent toujours du revenu et qui nous aident à nous financer.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que entre-temps, t'as tout arrêté, t'as tout coupé du jour au lendemain ?
J'ai rien coupé. Enfin, si j'ai coupé quelques vieux trucs. Par exemple, on a un service de fax qui tourne toujours et qui nous rapporte de l'argent. On a un service d'audioconférence qui fonctionne toujours.
Ouais.
Je comprends pas trop pourquoi, mais... Pourtant, si. On a notre premier service de téléphonie internationale qui tourne toujours aussi. On a plein de services qui tournent encore, en fait. Mais on s'en occupe peu, en fait. On a juste du support, c'est tout. Et un petit peu de maintenance technique, et c'est tout. Toute l'entreprise est focalisée sur Ringover, qui, à l'origine, est en fait une initiative de Ludovic, qui est venu nous voir et qui a dit « Regardez, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et on dit « Ouais, bah, faut faire ça. » Et aujourd'hui, la boîte, c'est...
Ludovic, il était déjà dans la boîte ?
Déjà dans la boîte.
Quand il vous a...
Ouais, depuis genre un an ou deux, deux, trois ans. Et il nous montre ça et on se dit tous, en fait, il faut faire ça, en fait. Et aujourd'hui, la boîte, ça va devenir Ringover. La boîte ne s'appelait pas Ringover avant. Et aujourd'hui, la boîte s'appelle Ringover parce qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise, c'est Ringover, en fait. Toutes nos ressources sont sur le développement de ce produit.
Je comprends mieux le nom maintenant.
y avait aussi une contrainte. Moi, le nom, je le trouve relativement joli, mais ce qui était...
Ouais, non, mais je comprends mieux du coup la signification derrière le nom.
Puis le .com était libre,
comme tu l'as dit,
sans le payer. Ça, c'était important aussi. Mais oui, c'est un nom qui sonne plutôt bien, ouais, effectivement.
Et puis, vous l'avez directement pensé aussi international, quelque part.
Alors, à partir du moment où c'est dématérialisé, effectivement, c'est naturellement très international. Mais bien que là, on a un sujet de culture, c'est qu'à l'origine, on faisait tout notre chiffre d'affaires en France avec que des Français. Aujourd'hui, on est 39 nationalités chez Ringover. À l'époque, on en était une, français, et c'est tout. Et donc, du point de vue technique, oui, le produit s'internationalise très bien. Mais du point de vue culturel, on était très franco-français. Et ça nous a pris beaucoup de temps de prendre ce virage à l'international pour vraiment devenir une entreprise internationale avec vraiment du développement commercial et du développement même d'un revenu à l'international significatif. Ça nous a pris beaucoup de temps.
Ouais, je te coupe juste deux petits instants parce que je sais que l'international, on va se plonger là-dedans. Donc, pour récapituler, de 2005 à 2013, vous développez les 15 services jusqu'au moment où Ludovic vient vous pitcher cette techno WebRTC.
C'est même un prototype, c'est pas juste la techno, il a fait un produit en fait. C'est un produit très minimaliste, mais il a fait un produit. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il arrive avec un produit, il arrive pas avec une idée, il arrive avec un produit. Et c'est à partir de là vraiment qu'on se met à fond là-dessus. Et que le produit évolue comme il a évolué, c'est-à-dire d'un simple téléphone à un téléphone connecté au CRM pour les équipes commerciales, support et recrutement, et aujourd'hui pour devenir vraiment un outil de communication omnicanal avec toute la brique d'analyse conversationnelle, avec l'IA, etc. etc.
Sur, au moment où Ludovic vous pitche ça, il vous présente le proto. Peut-être petite question parce qu'au final on a déjà bien entamé la genèse, donc c'est bon, c'est très bien, puis après on fera la photo générale. Est-ce que le marché il est prêt justement à ce virage, parce que il y a la techno et il y a l'usage qui est hyper intéressant d'un point de vue, je dirais, utilisateur et même pour vous en termes de business model, c'est génial. Mais est-ce que le marché est prêt à ce moment-là, en 2013, quand la technologie commence à émerger?
Alors, la technologie date de 2013, nos protos 14-15, mais le début de la commercialisation plutôt 16-17 et le début du succès plutôt 18, en gros. Le avant-après, c'est qu'à partir de 2018, on intègre la téléphonie. Avant, c'était que de la téléphonie. Et on intègre la téléphonie au CRM. Et en fait, il y a eu un énorme engouement des entreprises et même des entreprises de taille petite et moyenne qui veulent un CRM. Sauf que le CRM, il y a toute la donnée des clients dedans et il faut un canal de communication pour parler aux clients. Donc, c'est très naturel, en fait, de connecter le téléphone avec le CRM. Et ça, on n'est pas beaucoup à le faire à l'époque. Ou plutôt, on n'est pas beaucoup à le faire de manière simple. Parce que ce principe-là existe depuis plus de 20 ans, mais c'est des usines à gaz, c'est des projets d'ingénierie qui durent des mois et des mois. Alors que nous, en fait, intégrer Ringover à un CRM, c'est sans exagérer 4 clics. Et ça prend 2 minutes, même pas 1 minute. Alors qu'avant, c'était des mois d'ingénierie. Donc ça, c'est vraiment une grosse rupture. On n'est pas les seuls à savoir faire ça à l'époque, mais on n'est quand même pas beaucoup. Donc, c'est ça qui nous aide vraiment à décoller. Et puis après, naturellement, on se tourne, donc on s'oriente bien sûr vers ceux qui voient encore de la valeur dans la communication, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup de communication externe, avec les clients, avec les prospects, avec les personnes que l'entreprise cherche à recruter, etc. Donc, c'est un gros focus sur les fonctions sales, care et customer success et les fonctions recrutement. Donc, plutôt de se dire que on veut faire encore un logiciel de téléphonie, on se dit on va faire le meilleur logiciel possible pour ces trois métiers.
Et donc...
Vas-y, je t'en prie.
J'allais dire, entre le prototype et la commercialisation, qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans les grandes lignes? Est-ce que vous recrutez différemment aussi?
Alors au début, c'est tout petit parce qu'on a très peu de clients. Ringover, ça fait très peu de choses au début. Et puis la valeur, c'est que ça marche de partout, mais c'est à peu près tout. Ça, c'est le tout début. Et puis justement, c'est quand on commence à aller chercher, à apporter de la valeur, justement avec l'intégration avec les CRM, avec les statistiques assez avancées, avec les outils de routage, etc. Tout ce qui va en fait permettre de mieux servir et de rendre la vie plus belle des commerciaux, des personnes du support et des recruteurs. Et à partir de là, c'est là qu'on décolle et seulement là qu'on décolle. Avant, en fait, c'est difficile. On fait un tout petit chiffre d'affaires sur Ringover. C'est tout petit. Donc, heureusement qu'on a les vieux services parce qu'on n'est toujours pas financé par un fonds. Donc, heureusement qu'on a les vieux services pour nous aider à nous financer. Et on continue à investir dans la techno, dans le produit. Et puis là, on voit que le marché frémit et que comme on est utile aux gens, et ben, les gens l'achètent. Enfin, non, c'est assez basique, hein. Mais c'est qu'avant, ben, finalement, bon, à part le fait que c'était cool et que ça marchait de n'importe où, la valeur était quand même assez réduite. Et là, tout à coup, ben, on crée vraiment de la valeur et on fait vraiment gagner de la productivité à nos clients. On leur change la vie au quotidien. Et là, ben, là les clients arrivent. Et là, ben, on se dit, ben, là, on va commencer à aller recruter une équipe commerciale. Progressivement et d'ailleurs celui qui va beaucoup nous aider pour le développement commercial, qui va aller chercher nos premières références et nos premiers grands comptes, c'est quelqu'un que tu connais peut-être parce qu'il fait aussi un podcast, c'est Yannick Robert, je sais pas si ça dit quelque chose, et lui c'est notre samouraï de la vente, comme il se qualifie lui-même.
Et
c'est lui qui nous signe nos premiers gros contrats. Parce que, en fait, si tu veux avoir un produit un peu abouti, il faut des clients exigeants et donc des clients un peu grands comptes qui viennent t'expliquer leurs attentes. Ça te permet de vraiment monter en niveau d'exigence et de monter en qualité de ton produit. Mais sauf que tu as zéro référence et donc c'est hyper dur. Et lui est vraiment allé défricher le marché et prendre nos premières références, déjà pour nous crédibiliser, mais aussi pour nous aider à améliorer notre produit. Et grâce à lui, enfin pas que grâce à lui, mais en grande partie grâce à lui, on a pu faire décoller le business, mais aussi mieux faire évoluer notre produit. Et c'est là vraiment que ça décolle. Ça et les intégrations de l'outil avec les CRM. Et là, aujourd'hui, nos enjeux, c'est l'omnicanalité, l'intelligence artificielle, mais à l'époque, le CRM est vraiment le bon market fit, la vraie bonne compréhension des besoins des clients. C'est ça qui nous aide à décoller. Et c'est là qu'on a de l'attraction.
Écoute, super. On a bien retracé, je pense, l'histoire. Et puis après, on pourrait encore élaborer dessus. Mais le temps file, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ça fait quoi, Ringover? À qui ça s'adresse? Et ensuite, on va rentrer dans les sujets d'hypercroissance qu'on a mentionnés au début. Mais voilà, juste pour qu'on comprenne bien le périmètre actuel, les différents produits et les différents usages.
Alors, Ringover, comme je disais à l'origine, c'est du téléphone. Ensuite, c'était du téléphone dédié au métier donc de la relation client, du customer success, du développement commercial et du recrutement, parce que c'est en fait ces fonctions-là qui ont un besoin de communiquer beaucoup avec l'extérieur et de manière structurée. On a intégré au CRM, et nous aujourd'hui notre enjeu, c'est une évolution des usages, encore une fois, au même titre qu'avec l'arrivée des CRM, bah, y a eu cette évolution des usages. Nous aujourd'hui vraiment l'évolution importante, c'est qu'on s'aperçoit que il y a 20 ans la relation client c'était que par téléphone, il y a 15 ans c'était que par téléphone et par email. Aujourd'hui la relation client, bah, c'est par téléphone, par email, par visio, par message, par réseaux sociaux, par web chat, etc., etc. Et donc c'est plein de canaux de communication, et ça c'est ça les usages, ça c'est des clients qui veulent communiquer avec les entreprises qui les servent comme ça, via tous ces canaux. Aujourd'hui, on a deux alternatives. On a soit une solution logicielle très complexe qui est dédiée au gros call center de 2000, 3000 positions, soit on a des petits SaaS mis bout à bout, un SaaS pour la téléphonie, un SaaS pour les messages, un SaaS pour les réseaux sociaux, un SaaS pour le web chat, etc., etc. Et on se retrouve avec 5-6 SaaS. Et donc, la personne qui va entrer en relation avec ses clients, elle se retrouve à avoir 5-6 outils ouverts et pour une même conversation concernant un même sujet avec le même client, elle se retrouve à jongler entre 5-6 outils différents. Ça n'a pas de sens. C'est hyper lourd. En plus, il y a de la perte d'informations. L'intégration n'est pas toujours parfaite, le suivi est très lourd, c'est pas pratique, il n'y a pas une vue d'ensemble. Donc nous, notre vision, c'est que là aujourd'hui, faut s'adapter à ces usages et donc faire un outil tout en un, c'est-à-dire où l'ensemble des canaux couramment utilisés pour la relation client, on doit l'avoir tout intégré dans un seul outil.
Au même endroit.
Et Ringover aujourd'hui, c'est ça, c'est une suite de communication omnicanale. Et aussi, ce qu'on est en train d'introduire également dans notre produit, dans notre suite logicielle plutôt maintenant, c'est une analyse conversationnelle. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on analyse le texte, mais tout ce qui est audio et tout ce qui est audio-vidéo, on l'analyse pas, on l'enregistre. Mais en fait, personne n'écoute les enregistrements, parce qu'un enregistrement d'une heure, ça prend une heure à écouter. Donc, quand tu as une équipe commerciale ou une équipe support de 30 personnes, tu vas pas passer... 210 heures par jour à écouter des enregistrements. Donc, en fait, toute la valeur, toute l'information qui permet de mieux comprendre et de mieux servir tes clients, en fait, tu la perds. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil qui permet de transcrire toutes les conversations, donc en texte, mais pas seulement, également de les résumer, d'extraire les phrases clés, également extraire les tags, pouvoir mettre automatiquement le tag dans le CRM, extraire des données pour les mettre automatiquement dans le CRM, etc., 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 pour extraire toute la valeur et toute l'information de la conversation, pour aussi avoir les étapes clés de la conversation, pour avoir tous les indicateurs, genre tu parles trop vite, tu parles trop doucement, tu laisses trop de pause, pas assez de pause, tu coupes la parole ou pas, etc., etc., pour avoir tous ces indicateurs qui remontent dans le CRM et aussi qui permettent à la personne qui est en relation avec les clients de mieux exercer son métier. Et en fait, l'IA va permettre d'extraire de l'information et va aussi permettre de donner des indicateurs qui vont permettre de guider les utilisateurs pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail, une meilleure productivité grâce à l'intelligence artificielle qui apporte tous ces guides, tous ces indicateurs, etc., etc. Et ça, ça c'est vraiment une des grande valeur qu'on apporte dans le produit aujourd'hui. L'idée, c'est de faire évoluer Ringover d'un outil de téléphonie un peu avancé à vraiment une suite vraiment conversationnelle qui permet vraiment d'échanger avec ses clients via tous les canaux et de mieux comprendre, mieux analyser donc le contenu des conversations pour mieux servir et ses clients et ceux dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est...
Ouais, pour toi, c'est plus pertinent d'avoir un produit un peu profond, bah ouais. justement, qui va, comme tu l'as dit, permettre d'avoir tout au même endroit, d'augmenter toi aussi en tant qu'éditeur le panier moyen et la stickiness en même temps avec tes utilisateurs. Donc,
aussi,
donc
ouais, ouais. Non, économiquement, ça a un sens pour nous. Et puis, moi, je me dis, voilà, je me mets à la place du client. Si j'avais besoin de gérer ma relation client et que je veux pas me retrouver avec 7-8 outils différents, comment je fais? Et partant de ce constat, ben on a fait une suite logicielle qui permet de couvrir tous ces besoins. Nous, on aime bien juste se mettre à la place du client et parce que l'idée d'assembler plein de SaaS différents, ça en start-up et en grand groupe, ça se fait bien. Mais dans les PME plus traditionnelles, ils n'ont pas forcément l'agilité technique, les moyens financiers aussi de le faire. Donc, ils se retrouvent avec des solutions qui sont faites un peu qu'à moitié, quoi. Et c'est un peu dommage parce que, en fait, c'est notre devoir de fournir quelque chose qui est vraiment satisfaisant et pas à moitié satisfaisant. Ça, c'est tout le boulot de notre roadmap de ces temps-ci, là.
Et au niveau de la cible, c'est qui pour toi aujourd'hui la cible cœur de ton côté? C'est TPE, PME, c'est quoi?
Alors déjà, c'est ceux qui ont des équipes commerciales et ou customer care et ou support et ou recrutement. Là, c'est vraiment là qu'on est très bon. Après, il y a des entreprises qui choisissent de mettre Ringover pour tout le monde. Mais là où on est vraiment très bon, c'est là où c'est pour servir ces métiers-là. Donc s'il y a un nombre significatif de personnes qui exercent ces métiers-là dans l'entreprise, ça, c'est la cible. Après, en termes de taille de boîte, on sert des clients de 1 utilisateur à 1200 avec le même produit. Donc, ça prouve à quel point le produit est suffisamment abouti pour satisfaire des clients d'une certaine taille et en même temps, suffisamment simple pour servir des clients tout petits qui ont des besoins très simples. D'ailleurs, je pense que notre force, c'est aussi de venir du B2C, hein, parce que tout début, on était sur du B2C. Et donc ça nous a donné cette culture de la simplicité. Parce que le client particulier, il veut pas trop se poser de questions, il veut que ça marche, il veut que ce soit simple. Et en fait, on a gardé cette culture qui est extrêmement appréciée chez nos clients, même pros, et même chez nos grands comptes. Hein. La simplicité, c'est vraiment très, très apprécié, et ça manque quand même beaucoup dans certains SaaS B2B. En tout cas, dans les SaaS B2B traditionnels. Je pense que les SaaS B2B, un petit peu...
Ouais, c'est un peu le travers là d'avoir une accumulation de features et de construire un peu un Frankenstein avec tout un tas de dérivés et qui sont difficiles à maintenir, qui sont difficiles à vendre aussi
et à utiliser et parce que naturellement ce que tu fais c'est qu'effectivement t'empiles des features mais après tu dois assurer une cohérence fonctionnelle pour vraiment coller avec les usages de tes clients. Et ça, c'est là que ça devient un petit peu complexe, parce que complexe à faire en sorte que ce soit simple, en fait, justement. Ce qui est complexe, c'est de rendre ça simple. Et on y arrive plutôt bien, parce que vraiment, on a cette culture et on se met à la place du client et on sait que le client, il veut pas se faire mal à la tête. En fait, c'est pas son cœur de métier. C'est notre travail, en fait. La tech, elle est de notre côté. Notre rôle, c'est de prendre les problématiques techniques pour nous et d'en débarrasser le client, en fait. Et que lui, il se concentre sur son métier et que les questions d'outils, les questions de techno, soient plus son problème et qu'on l'en débarrasse et qu'il puisse avoir un usage simple et concentré sur son métier. Et ça, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Nous, on a cette culture et malgré ça, c'est un combat du quotidien. Pour construire un produit cohérent, à la fois puissant et riche fonctionnellement et néanmoins facile à utiliser.
Je te propose du coup de, maintenant qu'on a la photographie, de passer, on va dire, d'avancer et d'aller jusqu'en 2021. Ouais. C'est là, je crois, que vous avez fait votre première grosse levée de fonds. C'était 10 millions à l'époque. Puis après, vous avez fait 20 millions en 2023.
C'est ça.
Donc, c'est marrant parce que vous avez quand même réussi, malgré le contexte de marché, à passer entre les gouttes et c'est super, super intéressant de voir ça. Donc, jusqu'à présent, vous étiez bootstrap, rentable, avec une croissance régulière. et une équipe assez concentrée, comme tu le disais, hein, 30 à 40 personnes. Qu'est-ce qui a fait que, en 2021, tu as décidé de lever des fonds? C'était quoi le contexte?
Alors, le contexte, c'est qu'il y a une opportunité de marché exceptionnelle. Il y a énormément d'argent sur le marché. Ce qui ne veut pas juste dire que c'est moins difficile de lever. Ça veut surtout dire que les clients ont de l'argent. Et quand les clients ont de l'argent, ils achètent. Donc, ça veut dire qu'il y avait un potentiel pour nous. Si on allait suffisamment vite, si on mettait suffisamment de moyens, il y avait la possibilité pour nous d'acquérir très vite beaucoup de clients et donc d'atteindre une certaine taille. Et ça, déjà, c'est une opportunité. Et par principe, ben, on aime bien saisir les opportunités. Mais aussi, c'était essentiel parce que nous, on est sur un marché qui est très gros. Donc, en face de nous, il y a des gens très gros avec beaucoup d'argent et une grosse taille. Et en fait, on a beau avoir, même quand on a le meilleur produit du monde, en fait, si on est le 350e acteur européen, ben, en fait, personne nous regarde jamais. Et donc, on est jamais considéré par les clients potentiels, etc., etc. Donc, on a besoin d'avoir une certaine taille pour pouvoir compter parmi les leaders. Et ça implique, ben, de croître vite, parce que quand on veut passer de petit à une certaine taille, eh ben, le chemin de la croissance, c'est de croître vite. Donc, on s'est dit, déjà, on n'a pas le choix. Si on veut exister, il faut être plus gros. Et en plus, on a l'opportunité de pouvoir croître très vite parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché. Donc, on se dit, bah, pour accélérer, et notamment à l'international, pour occuper une place de leader dans un certain nombre de marchés clés qu'on avait sélectionnés, donc la France, l'Espagne, le UK et plus récemment les États-Unis, ça nécessite quand même pas mal d'argent. Parce que accélérer coûte et l'international coûte cher. Parce que la France, on était là depuis presque 15 ans sur le marché, donc on a quand même on a une certaine crédibilité. Alors on reste une petite boîte, hein, mais on a quand même une certaine crédibilité. Quand on arrive dans un nouveau pays, en particulier aux États-Unis, on est personne. On part vraiment de zéro. Donc, qui dit partir de zéro dit des retours sur investissement à beaucoup plus long terme. Et ce qu'un financement bootstrap avec un financement bootstrap, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, ça permet pas d'aller à la vitesse où on voulait aller. Donc, on se dit, on a l'opportunité et on a la nécessité de grandir vite. Donc, on va lever de l'argent. Et à partir de là, donc, on démarre notre série A. Alors, ce qui était assez intéressant, c'était le décalage, parce que comme on avait été bootstrap pendant des années et des années, bah, la plupart des boîtes, quand elles cherchent 10 millions, elles ont déjà fait 3-4 levées. Donc, elles ont une expérience de la relation avec les fonds. Et nous, on est arrivé. La fleur au fusil a demandé quand même 10 millions. Et à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Enfin, il y a eu en 2021, début 2022, c'est tout petit. Mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent quand même, 10 millions. Donc, on arrive à chercher 10 millions. Et avec finalement l'expérience de quelqu'un qui va chercher 100 000 balles en seed, quoi. Donc, du coup, ça crée un petit décalage avec les fonds. Et honnêtement, on n'a pas été super bien accueillis, mais c'est pas de la faute des fonds, c'est de notre faute en fait. C'est qu'on est.
Quand tu dis il y a eu un petit décalage, c'est quoi? C'est
les fonds attendaient une maturité dans la manière de faire notre roadshow et de faire notre levée, alors que nous c'était notre première expérience de levée de fonds. Et en fait, tous les autres qui leur demandaient 10 millions, ils avaient fait 3-4 levées, donc ils savaient comment ça marchait, ils avaient les codes, ils savaient ce qui était attendu par le fonds, etc. Nous, un truc qui aujourd'hui paraît un peu surprenant, mais allez, notre série A, on arrivait chez les fonds. On ne sortait même pas de présentation, on tapait la dispute. Alors moi, c'était sympa, hein, c'était un bon moment, parce qu'en fait, les fonds, il y en a qui... Enfin, beaucoup de gens médisent sur les fonds. Moi, je trouve que c'est des gens qui sont souvent très intéressants et qui connaissent quand même assez bien leur sujet. C'est des échanges très sympathiques et très intéressants la plupart du temps. Bon, ils nous challengent un petit peu, évidemment, c'est leur boulot. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas été pénible pour moi de faire le roadshow. Bon, à part quand j'avais 4 visios par jour, là c'était un peu chiant parce que c'était un peu répétitif, mais disons, quand des jours normaux où j'avais juste un rendez-vous avec les fonds, moi j'aimais bien parce que je découvrais des trucs, j'échangeais, ça me permettait de nous remettre en question, de grandir, d'avancer, de mieux comprendre. C'était des bons moments avec des gens plutôt sympas et plutôt qui connaissaient bien leur sujet, qui étaient intéressants, quoi. Donc moi, je l'ai plutôt bien vécu. Par contre, je pense qu'il y en a qui nous ont considérés comme des gros touristes, quoi. Et donc on arrive, donc notre série A, elle a quand même pris assez longtemps. Ensuite, on a eu donc on était en cherche de pour cette levée. Alors, on n'était pas au pied du mur. Moi, je suis, du coup, avec 15 ans de bootstrap, ça rend raisonnable. Donc, ça nous Ça apprend à faire, enfin, il est naturel pour nous de lever pas quand il nous reste que 15 jours de cash, quoi. Donc, on avait pas mal de cash en avance, donc on n'était pas si pressé. Mais quand même, ça, on a mis 18 mois pour faire notre série A, quand même. Donc, c'est quand même très particulier. Alors, contexte particulier, quand même.
Énorme.
Contexte particulier. On arrive, déjà, comme je te dis, c'est notre première levée, alors qu'on demande quand même beaucoup d'argent par rapport à notre inexpérimenté. Ensuite arrive quand même le Covid, le confinement, etc.
Ouais.
Et on apprendra plus tard qu'en fait, ça a plutôt boosté nos métiers parce que beaucoup d'argent, parce qu'une nécessité de s'intéresser à toutes ces technos un petit peu disruptives pour équiper les utilisateurs. Mais sur le moment, on n'emmène pas large et on se dit « Oh putain, l'économie, elle va vraiment partir en vrille. » Donc, on se retrouve un peu au pied du mur à un moment à dire qu'on est plutôt chaud pour avancer avec sur une levée. Et puis finalement, il y a cette espèce de climat de tension où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En même temps, on a envie d'aller très vite pour sécuriser. Et en même temps, on trouve qu'on se précipite un peu trop parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec les clauses de la term sheet, etc., etc. Ça crée une espèce d'ambiance bizarre, ce qui fait que là, on se retrouve à être à deux doigts de lever, mais ça marche pas. Parce que des accords, parce que je pense que c'était le contexte qui faisait ça, plus notre expérimentation. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour bien entamer une négociation, en fait, il faut déjà savoir ce que tu veux, toi. Et je pense qu'on était tellement inexpérimentés sur ce sujet qu'en fait, on arrivait devant les fonds et on négociait alors qu'on savait même pas ce qu'on voulait, nous. Donc forcément, ça marchait pas. Je pense qu'en fait, les fonds, c'est quand même des gens constructifs, pour la plupart en tout cas, et que si on sait ce qu'on veut et que ce qu'on veut, c'est raisonnable, globalement, je dis pas qu'on aura exactement ça, mais en tout cas, on part sur des bases saines et à la fin, on a quelque chose qui est acceptable pour tout le monde et qui est bien. Mais quand tu sais pas ce que tu veux, bah, tu déroutes les mecs en face, tu les insécurises et ou tu te fais bouffer. Et c'est même pas par vice que tu te fais bouffer, c'est juste qui tire la couverture, c'est normal, tu vois. Enfin, tout le monde fait ça. Et donc, si tu présentes quelque chose de mou et de pas clair, les mecs, ils proposent ce qui les arrange. C'est normal. Mais si toi, tu proposes ce qui t'arrange et ce que tu veux vraiment et que tu proposes ce qui leur arrange, souvent déjà, c'est pas si loin. Et puis tu discutes. Mmh. Et donc, ça, du coup, on se retrouve à faire un début de levée qui a failli aboutir et qui n'aboutit pas. Vient nous voir Expédition Grosse Capital, qui est notre fonds historique. Et alors, en fait, c'est leur modèle économique, en fait. C'est-à-dire, leur modèle économique, c'est d'aller chercher des boîtes bootstrap qui n'ont jamais levé, ou très peu levé, de les financer, notamment dans le SaaS B2B. Et en fait, on était pile dans leur modèle économique. Et pour eux, c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est des boîtes qui, du coup, font pas n'importe quoi, parce que après 15 ans de bootstrap, quand même une culture de pas complètement planter la boîte et de la mettre dans le mur. Donc, ce qui fait qu'avec les mécanismes des liquides pref, ils se retrouvent à limiter leurs risques. Comme ils ont le potentiel des boîtes bootstrap qui quand même souvent marchent bien et la limitation du risque par la culture d'une croissance raisonnée limite un peu les risques, donc ils ont le potentiel, ils ont un peu moins de risques que d'autres tests avec d'autres tests d'investissement, ce qui leur permet de proposer des conditions plutôt sympas, d'être souple, d'avoir un super état d'esprit. Donc c'est un super fond, en fait. Un super fond, mais qui est vraiment spécialisé dans les gens comme nous, quoi. Donc, c'est affité direct, humainement et économiquement. Et c'était trop bien. Et là, on était hyper contents. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de travailler avec eux. Enfin, il y en a. Moi, je connais des gens qui disent souvent qu'ils regrettent d'avoir levé parmi des gens du bootstrap. Moi, je ne regrette pas d'avoir levé. J'ai considéré que la phase d'hypercroissance était une phase difficile professionnellement, mais c'est pas à cause des fonds, c'est juste parce que c'est difficile. Moi, je regrette pas du tout d'avoir levé. Et ensuite, on a fait une autre série. Donc notre série B. Donc, tu noteras qu'on n'a pas forcément le sens du timing parce qu'on a levé juste avant la bulle et juste après la bulle. Donc, on a cherché un peu, on pourrait croire qu'on a cherché à éviter les valos stratosphériques du milieu. Donc, c'est vrai, on a eu des valos tout à fait honnêtes, hein. Mais on n'a pas eu l'opportunité de fin 2021 avec...
De toucher les étoiles.
Exactement. on s'est mis juste après et on a fait une série B. Cette fois-ci avec BPI Large Venture et Orange Venture, plus Expédition qui a remis un peu. Et ça se passe également très bien. Parce qu'on a été très bien accompagné aussi par notre notre leveur de fonds, Clipperton, qui a vraiment bien bossé et qui, je pense, nous a mis entre les mains de bonnes personnes. C'est un peu un mariage. Hein. Enfin, quand tu lèves avec un fonds, c'est pas juste un mec qui t'apporte du pognon et c'est tout, et qui t'embête. C'est quelqu'un qui, enfin, il devient ton associé, quoi.
Alors justement, c'est quoi un peu tes, toi aujourd'hui, avec le recul, là, tes apprentissages là-dessus et tes conseils que tu peux donner sur, à la fois sur la partie préparation, comme tu le disais, vous êtes arrivé un peu la fleur au fusil à l'époque, et voilà, qu'est-ce que toi tu retires de cette période-là, voilà, mais aussi sur la partie choix des investisseurs, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens des fois qui regrettent, parce que bah, sans doute ils n'ont pas forcément eu le luxe de pouvoir bien sélectionner leurs invests. Il y a aussi des problématiques voilà, de trésor. Donc, ouais, qu'est-ce que toi, tu retiens de cette phase-là ?
Alors, plusieurs choses. Alors, le fait d'être inexpérimenté et en décalage par rapport à l'argent que tu demandes, je pense que c'est inhérent aux boîtes bootstrap. Donc, pour les boîtes bootstrap, faites attention à ça, faites ça sérieux. Voilà, en tout cas, plus que ce qu'on l'a probablement fait. Pour les autres boîtes, bah, quand tu as fait 4 séries avant de ta série A, bah, en fait, c'est... tu es expérimenté, il n'y a pas de sujet. Donc, ouais, comme je te disais, savoir ce que tu veux avant de négocier, c'est important. Et se poser vraiment la question et demander des choses raisonnables, évidemment. Savoir ce que tu veux. Et puis, qu'est-ce qu'on a choisi ? Pour tout te dire, c'est l'expédition qui nous a choisi et pas l'inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est, on est allé voir plein de fonds que nous, on est allé chercher, mais plutôt sur le marché français. Et eux, en fait, ils sont au UK. Et c'est eux qui sont venus nous chercher. Et ce qu'on a beaucoup aimé, d'ailleurs, c'est qu'ils maîtrisaient vraiment bien notre métier. Ils nous ont appris plein de trucs. Ils avaient préparé quelque chose. Vraiment, c'était hyper pro, hyper spécialisé. Et en plus, humainement, ils sont top. Donc, en fait, c'était un peu une évidence. En fait, finalement, on avait un peu ramé. Les gens avec lesquels il n'y avait pas forcément tant de fit que ça. Ou bien, ou s'il y avait eu la fois où il y avait eu un super fit, ben, en fait, ça était un peu boiteux. Pour des raisons un peu contextuelles. Mais là, on a un super fit tout de suite. Ça se passe très bien. Les négos vont vite. Et puis, c'est efficace. En fait, il y a pas, ça a été un peu une évidence, en fait. Et aujourd'hui, ça se passe toujours très bien. Et après, bah, sur notre série B, c'est un peu différent. On hésitait à lever ou à juste faire un bridge avec notre, avec Expédition. On a longuement hésité, mais on s'est dit que, voilà, apporter de nouveaux investisseurs qui nous apporteraient autre chose, qui nous apporteraient d'autres synergies. Bah avec Orange, il y a quand même des belles synergies parce que nous, on a quand même une composante télécom. Aujourd'hui, on est beaucoup plus qu'un opérateur télécom. On est plus un SaaS qu'un opérateur télécom, mais on a quand même une culture télécom qui est forte, et une infrastructure télécom, une histoire télécom. Et puis les télécoms, ils sont comme nous, c'est-à-dire ils ont besoin d'apporter plus de valeur et d'évoluer comme nous. Donc, il y a quand même un fit en termes de projet avec Orange qui peut effectivement nous apporter beaucoup de synergie. Et puis la BPI, c'est un partenaire top aussi. Enfin, en tout cas, Large Venture, c'est top. Déjà, la personne qui nous accompagne, Caroline Lebel, elle est super. Elle est hyper smart. Humainement, c'est quelqu'un de bien en plus, et ça, c'est important. Et puis la BPI, ils ont un vrai écosystème qui aide les boîtes. Et notamment.
Ce que tu me disais tout à l'heure sur le recrutement de ton CRO. Ils ont fait passer des... Ils ont filtré.
Ouais, ce que je te disais, c'est qu'en fait, la BPI, ils font en vrai ce que beaucoup de fonds disent qu'ils vont faire. Voilà, eux, ils le font vraiment. Et notamment, ils ont un truc qui s'appelle le Hub. Et en fait, c'est tout un ensemble de services de soutien aux entreprises, dont un en particulier, qui est le service recrutement, en fait. Et ils t'aident à recruter les personnes clés que tu as besoin de recruter pour la boîte. Et c'est eux qui nous ont notamment aidé à recruter notre CRO, qui est vraiment super bien, qui nous aide énormément et qui comble vraiment très bien toutes les lacunes qu'on a sur les sujets revenus, qui arrivent à bien aligner les équipes, etc. Enfin, vraiment, c'est eux qui nous l'ont trouvé et ils ont passé, je sais pas, 30 ou 40 entretiens, moi une quinzaine. Enfin, c'était un processus qui a pris quand même du temps et ils ont vraiment mis l'énergie et la motivation. En plus, ils ont un réseau qui est quand même pas mal. Parce qu'ils sont quand même dans beaucoup de startups, ils sont quand même très présents dans l'écosystème, et en même temps, ils savent aller regarder un peu ailleurs, ils ont l'esprit ouvert, c'est pas un esprit un peu consanguin, comme parfois, dans l'écosystème. Et donc, non, c'est vraiment, ils nous ont vraiment beaucoup aidé, et voilà, il n'est de richesse que d'hommes, c'est deux femmes, mais des deux. Mais c'est vraiment l'humain qui fait la réussite des boîtes. Enfin, c'est bien sûr, on a une super techno, un super produit, mais c'est des humains qui l'ont fait, quoi. Et donc, bien recruter, c'est la clé de tout, en fait. Et en particulier sur les postes clés. Et ils nous ont vraiment super bien accompagnés. Donc, en fait, je sais pas, je peux pas dire qu'en général, lever, c'est bien, je sais pas, mais en tout cas, lever avec Expedition, avec Orange Venture et avec BPI Large Venture, en tout cas, c'est bien. En tout cas, pour nous, c'est bien. Et je regrette pas une seconde d'avoir levé. Voilà. L'hypercroissance, ça a été difficile, parce que passer de 30, 40 à 300, c'est difficile. Mais c'est pas à cause de la levée, ça. C'est juste que, en fait, c'est, la boîte évolue tellement vite que c'est difficile de s'adapter à cette nouvelle organisation. Ça nécessite des talents qu'on n'a pas forcément et qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer. C'est un rapport aux personnes qui est différent, parce qu'avant, c'est que du management direct. On bouffe tous ensemble et on discute. Là, faut communiquer, faut s'organiser, faut structurer. Et c'est d'autant plus difficile de structurer pour moi, à titre personnel, que moi, je suis quelqu'un d'un petit peu pas forcément le plus ordonné qui soit, forcément très structuré moi-même, et pourtant t'es obligé de structurer, et en même temps faut pas perdre ce qui fait notre identité, ce qui fait notre force, c'est-à-dire cette agilité, capacité à soutenir l'initiative individuelle, cette capacité à reconnaître l'unicité des personnes. Tout ça, je pense que c'est essentiel et que c'est ça qui a fait notre succès. Et bon, ce qui fait notre succès hier n'est pas forcément ce qui fait notre succès demain, mais je pense que là, c'est plus juste ce qui a fait notre succès. C'est vraiment notre identité. C'est vraiment ce qui nous est propre. Et donc ça, on veut le garder. Et en même temps, on n'est plus 15 dans un garage. Donc ça nécessite cette évolution, cet équilibre. Et en plus, faut faire ça vite. Et en plus, le fait d'intégrer les personnes, en fait, ça prend du temps, en fait. Et en fait, quand on va vite, c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense que l'hypercroissance, c'était une opportunité ça aurait été tellement dommage de pas la saisir. C'était une nécessité pour exister en tant que leader sur notre marché, mais c'est difficile, c'est-à-dire je suis clairement sorti de ma zone de confort, et je pense que la plupart des autres entrepreneurs qui ont fait ça, je pense que ça a pas été simple tous les jours. Mais donc encore une fois, pas de regret, mais ça, c'est difficile.
Mais justement, je te propose d'aller un petit peu plus dans le détail là-dessus, parce que c'est une période pas si éloignée.
Non, on est en plein dedans encore.
Donc ouais, post-levée de fonds, c'est quoi un petit peu, si on devait résumer les deux à trois principaux chantiers, tu vois, tu as l'argent sur le compte, il faut accélérer. C'est quoi un petit peu tes principaux chantiers pour développer la boîte assez rapidement, comme tu l'as dit, avec l'inexpérience de l'époque. Donc, moi, je suis curieux que tu nous en dises plus là-dessus.
Alors, déjà, il y a le sujet de l'internationalisation, qui en soi est pas évident parce qu'on part de zéro, dans des pays qu'on croit pareils que nous et qui ne le sont pas, notamment les États-Unis. Alors ça, je veux insister là-dessus. Les États-Unis, c'est pas parce qu'on regarde Netflix qu'on connaît les États-Unis, quoi. Ils sont différents. Je sais pas s'ils sont mieux ou s'ils sont moins bien, mais ils sont vraiment très différents de nous, en fait. Et en plus, ils nous considèrent comme des gens très très différents. Ils ne nous considèrent pas comme des gens pareils, en fait. On est des Européens et eux, c'est des Américains. C'est différent. L'approche est différente. Le marché est différent. La culture est différente. La façon de travailler est différente. L'état d'esprit est différent. C'est une civilisation d'hyper spécialistes. Donc, on ne peut pas arriver avec notre approche plutôt généraliste comme on a en Europe, parce que, par exemple, le marché français a moins de profondeur et est moins hyper spécialiste. Donc, ça a du sens d'aller chercher un nombre assez important de verticales métiers. Aux US, tu fais ça, t'es mort, parce que tu te retrouves... T'as déjà plein de concurrence parce que le marché est gros, et en plus, les gens, ils veulent leur... Enfin, tout est hyper spécialiste. Les gens sont hyper spécialistes, les entreprises sont hyper spécialistes et les usages sont hyper spécialistes. C'est-à-dire, mon métier, c'est ça. Je veux quelque chose qui est dédié à mon métier précisément.
C'est pour ça qu'aussi, ils ont beaucoup de SaaS tu vois, un peu à la Calendly, Loom, hyper, enfin Loom, je suis pas sûr que Loom ça soit US, mais ils ont plein de SaaS verticales en fait.
Ouais, exactement, parce que chacun veut pas le truc qui fait tout. Nous, on est très culture du couteau suisse, etc. On se démerde, on a un truc un peu, on est culture de généraliste, mais même dans notre enseignement, on est très généraliste. On aime bien le mais c'est bien aussi hein, parce que ça permet de connaître plein de choses et du point de vue de l'âme humaine, ça a un côté positif aussi hein. Mais en termes d'efficacité, l'hyperspécialisation, c'est quand même, ça marche hein. La preuve, les États-Unis, c'est toujours, et je pense à titre personnel pour longtemps, la première puissance mondiale. Et du coup, cette hyperspécialisation, c'est très efficace. Et culturellement, c'est naturel pour eux. Ce qui veut dire que les choses doivent être claires, les choses doivent être précises, les choses doivent être concentrées. Et donc déjà sur ton approche marché, c'est différent. Sur ta manière de bosser avec les gens, c'est différent. Nous en France, on se démerde. Et bien d'ailleurs, hein, même si les instructions, les lignes directrices et l'organisation est pas ultra claire, je dis pas que c'est parfaitement efficace. Hein, ça, on l'apprend à nos dépens, mais néanmoins ça fonctionne quand même. Les Américains, ils veulent que ce soit clair, précis, processé. Ça veut pas dire qu'ils comprennent rien. Ça veut dire qu'ils veulent pas d'ambiguïté. Ils veulent pouvoir se donner à fond dans un cadre extrêmement bien défini. Ce qui est aussi nécessaire en Europe, hein, mais chez eux, c'est pas nécessaire, c'est indispensable. Le marché est aussi beaucoup plus profond, donc on peut se permettre d'aller chercher aussi des niches. Le marché va plus vite aussi, c'est-à-dire ils essayent plus vite les produits, donc les cycles de vente peuvent être assez courts, même sur des comptes assez gros. Par contre, si c'est pas nickel exactement comme ils veulent, tu dégages en fait. C'est tout est différent. Et donc ton approche marché doit être différente, ton organisation doit être différente, ta façon de faire doit être différente. Et en fait, mon associé est parti là-bas, Renaud est parti là-bas. Il est installé à Atlanta depuis un peu plus d'un an. Et en fait, c'était indispensable. C'est-à-dire maintenant qu'il est là-bas, je me rends compte à quel point s'il n'y était pas allé, nous n'avions aucune chance.
Parce que tu avais déjà fait un recrutement avant là-bas. Ouais.
Et quelqu'un de bien. Mais ça n'a pas marché. On ne comprend pas les US à distance. Il y en a qui y arrivent, mais c'est rarissime.
Mais t'es vraiment pas le premier à dire ça. Donc je pense que là, c'est plus qu'une vérité. Là, c'est une évidence.
Il faut de la patience. Et puis je pense qu'il faut évidemment garder une cohérence avec son marché d'origine. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à vraiment adapter. Je dirais presque en termes de go-to-market, c'est une autre boîte. Pas en termes de produits, pas en termes de culture, mais en termes de go-to-market, je pense que c'est quasiment une autre entreprise.
Tu savais qu'avec son propre organigramme, son propre marketing,
pas
tout
forcément
ça,
en termes d'organigramme, mais en termes de stratégie. En termes de stratégie, en termes d'organisation, mais au sens plus large. Pas forcément avec un organigramme complètement séparé. Je pense qu'avoir une certaine autonomie au début, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas forcément ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment la manière d'adresser le marché, en fait. Faut tout repenser de zéro, quoi. Faut pas avoir trop de préjugés. Si tu calques des préjugés qui sont ce qui fonctionne en France ou en Europe en général, enfin, en tout cas, dans les pays européens qu'on connaît, je pense que sur la plupart des marchés, ça ne marche pas, en fait. Et donc tu construis quelque chose de neuf et d'adapté spécifiquement au marché américain. Et donc pour ça, tu t'installes là-bas, tu commences à réfléchir comme eux, avec eux, quoi. Et je pense que c'est essentiel. J'ai des contre-exemples, évidemment. Hein. Je connais une boîte, ils font 15 millions d'euros d'ARR, je crois, ou 20, enfin pas mal. Ils sont tous à Toulouse et ils sont 100% de leur chiffre d'affaires aux US. Ouais, ça existe. Mais ça, c'est un peu particulier, quoi. La plupart...
C'est les anomalies du marché. Ouais.
Et c'est assez admirable d'ailleurs. Mais je pense que la plupart des boîtes normales, il faut vraiment penser, je pars à zéro, quoi. Et j'ai pas d'a priori, j'ai pas de certitude. Et je suis allé.
Et chez Ringover, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous là par rapport à vos produits? Parce que vous avez différentes solutions. C'est une suite logicielle. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous pour attaquer le
marché? Alors, on a adapté un peu le produit, mais pas tant que ça. Mais on a surtout, encore une fois, adapté le go-to-market, adapté la manière de vendre, la manière de communiquer. On s'est spécialisé aussi sur un nombre beaucoup plus restreint de verticales. La manière dont on manage, dont on organise les choses est différente aussi, etc., etc. On a vraiment adapté, mais plus le produit, encore une fois, plus vraiment la partie stratégie marketing, sales, et puis le support aussi. Le support, c'est un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Mais tant mieux, parce que le jour où on a un support, et on n'est pas loin d'ailleurs de ça, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais aujourd'hui, on a un support, quasiment un support qui est satisfaisant pour les Américains. Et l'idée, c'est de niveler par le haut et d'importer cette exigence chez nous en Europe pour servir nos clients européens comme les clients américains cherchent à être servis. Et du coup, ça, c'est bien, ça nous permet d'avoir un niveau d'exigence qui sera, et du coup, d'avoir un support excellent en étant juste bon aux US, notre support sera considéré comme excellent en Europe, en fait. Ce niveau d'exigence est assez fascinant, en fait. Les Américains veulent tout de suite, en fait. Nous, on trouve que c'est capricieux, mais eux, ils trouvent que c'est comme ça et c'est tout, en fait.
Mais c'est à la hauteur aussi de leur capacité à prendre très rapidement une décision.
Exactement. Ça va vite, en fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement, c'est une forme de culture test and learn que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup. Mais il y a un côté parfois presque, qu'en tant qu'Européen, on trouve un peu excessif. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et ça fonctionne. Et de toute façon, c'est pas à nous de décider. C'est leur pays, c'est leur marché. Donc on s'adapte. Sinon, ça marche pas. Et du coup, on apprend plein de trucs. On apprend plein de trucs. Mais il y a une grosse spécificité.
Si par exemple là tu devais donner un conseil à un founder là qui veut aller aux US, là qu'est-ce que tu lui dis par rapport à, j'en sais rien, au produit, au marketing, je sais pas, peut-être même en termes d'orga, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais déjà faut qu'il y ait un des fondateurs ou quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans l'entreprise, et parfois il y a des gens qui sont pas fondateurs et qui sont extrêmement impliqués dans l'entreprise, donc j'avais de quasi-fondateurs. Donc, il faut qu'il y ait au moins un fondateur ou un quasi-fondateur qui parte là-bas. Et qui a envie, hein. Faut pas qu'il soit forcé, parce que c'est quand même, bouger avec toute la famille et tout, c'est, faut quand même avoir envie, quoi. Faut pas le faire, dans des pieds, juste parce qu'il faut, quoi. Donc, faut que quelqu'un ait envie d'aller là-bas. Et aille là-bas. Ça me paraît important. Ce qui me semble important aussi, c'est pas forcément de repartir à zéro, parce qu'il faut pas jeter à la poubelle tout le travail qui a été fait, mais partir du principe qu'on peut, en tout cas, stratégiquement et intellectuellement, partir d'une feuille blanche pour définir sa stratégie go-to-market, et puis être à l'écoute. Être à l'écoute et partir du principe que c'est eux qui ont raison. Ça, après, choisir l'endroit où on va aussi, hein, c'est un sujet de coût quand même, et un sujet de décalage horaire. Alors, c'est un peu basique et terre-à-terre, mais nous, on a choisi Atlanta. C'est pas pour rien. On a choisi Atlanta parce que nous on voulait avoir que 6 heures de décalage horaire, parce que si on veut avoir un bon lien entre la France et les US, la côte ouest c'est quand même compliqué. Pour trouver des créneaux communs pour continuer à parler ensemble, c'est compliqué. Donc on a choisi un endroit où il y avait 6 heures de décalage. Je pense que c'est important. On a choisi aussi une ville où les coûts sont raisonnables. Ils sont quand même déjà chers, hein. Atlanta c'est vraiment plus cher que chez nous. Mais c'est quand même plus raisonnable que New York, par exemple. Si on a besoin d'être à New York parce que ses clients sont tous à New York, que l'écosystème est à New York, on va à New York. J'ai rien à dire à ça. Mais quand c'est pas le cas, même si en termes de billets d'avion c'est moins cher, c'est plus pratique, c'est plus cool, New York c'est pas forcément le bon choix, parce que New York les salaires sont, enfin le coût de la vie est énorme, donc les salaires sont énormes. Et en plus il y a un turnover énorme et les gens se vendent parfois un peu plus au front, etc. Il faut savoir que quand on est une boîte française, en fait, on est, à part dans le luxe et la gastronomie, on n'a pas une image de boîte qui donne envie plus que ça, quoi. En fait, le fait de dire, ouais, ma boîte elle est française, les Américains, ils s'en foutent, en fait. Et au contraire, ça fait pouilleux, quoi. Donc, faut plutôt se mettre dans une zone où on ne sera pas en compétition avec les startups locales.
Ce que tu dis, ça me fait penser à un founder là, qui m'avait dit la réalité, c'est que en tant que boîte française, avec les salaires qu'on est capable d'offrir sur ces marchés-là, il y a une bonne partie des candidats qui sont un peu, je dirais, dépasser peut-être le VP Sales chez Oracle qui vend le même produit depuis 20 ans et qui n'est plus à jour. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça?
Alors oui, il y a un sujet de salaire. C'est que nous, on arrive, quand on commence à recruter là-bas, on ne comprend pas. Parce qu'en fait, les salaires, c'est sur certains postes, notamment les postes plus niveau, enfin niveau VP, etc., c'est quasiment deux fois plus cher que la France, quoi. Donc, quand tu vois que, en fait, ton, par exemple, ton VP sales local, en fait, tu le payes plus cher que toi, tu le payes plus cher que ton DIRCO, ça déroute un peu. Mais pourtant, le marché, c'est ça. À l'inverse, attention, parce que les Américains, ils savent se vendre, notamment en entretien, parce que nous, on n'a pas trop cette culture, mais les Américains, ils ont la prise de parole, le fait de se vendre, de se mettre en avant, etc. C'est un truc qu'ils apprennent à l'école, quoi. Pas en école de commerce, au primaire, quoi. Donc les mecs, juste, ils nous éclatent. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc, dès qu'on sort d'un entretien avec un Américain, on dit « Oh, il est trop génial et tout, je le veux tout de suite. » Mais en fait, non, c'est juste que le mec est souvent, pas toujours, mais souvent, c'est que le mec, il tchatche bien et c'est tout. Et puis, il se survend et il t'explique que profite du fait que tu connais pas le marché pour te dire que, en fait, mais si, c'est tout à fait normal de le payer hyper cher. Donc, faut vraiment bien se renseigner, notamment auprès d'autres boîtes qui sont installées là-bas, etc., sur voilà le poste que tu recherches, etc. C'est quoi vraiment le marché? Parce que sinon, d'un côté, tu peux être trop radin et juste trouver personne, si tu espères payer au salaire français, et à l'inverse, tu peux aussi te retrouver à t'enflammer, et surtout si tu viens de lever beaucoup d'argent, à dire ouais, c'est bon, il y a du cash, et à payer 50% de plus pour rien, quoi. Et puis les meilleurs sont pas forcément les plus chers. Je pense que les bons sont tous assez chers. Je pense qu'il n'y a pas de bons pas chers, mais les chers sont pas tous bons et les plus chers sont pas forcément les meilleurs.
C'est comme les bouteilles de vin.
Un petit peu, ouais, exactement, exactement. À 2 euros, je connais pas de bon vin. Par contre, il y a des pinards à 20-30 qui sont meilleurs que des pinards à 80-90. Ouais, tout à fait, exactement.
ok, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'en avais parlé avec qui, je crois, avec Wiser, ouais. Jean-Philippe, tu le connais? Wiser, l'entreprise Wiser, ils étaient passés par. Il y a un dispositif, j'ai plus le nom, qui permet justement aux boîtes françaises d'être épaulées là-bas aux US. J'ai plus le nom du dispositif.
Ah, moi non plus. Ouais, je le retrouve. Non plus. Nous, on est passé par des chasseurs de tête au début. Un qui nous avait été recommandé par quelqu'un qui bossait avec nous. Et ensuite, un autre qu'on avait rencontré comme ça, etc. Et alors, c'est assez marrant parce que, en fait, l'histoire de cet autre. Du deuxième chasseur de tête qui nous a retrouvé, qui nous a trouvé certains de nos commerciaux là-bas. L'histoire est marrante. En fait, on voulait le recruter comme VP Sales là-bas. Et puis, finalement, il nous a dit non parce qu'en fait, il restait à la boîte où il était parce qu'il lui refaisait une super offre. Et donc, il nous refuse ça. Et je lui dis, oh putain, c'est quand même dommage. Parce qu'on avait vraiment beaucoup, on avait eu un super bon fit. Et on avait parlé très longtemps. Et je lui dis, oh putain, c'est dommage quand même. En plus, tu connais super bien la boîte, tu sais exactement ce qu'on veut. C'est con que tu viennes pas. Mais je lui dis, bah, tu sais quoi? Bah, tous nos échanges là, autant faire quelque chose. Tu veux pas, tu connais vraiment bien le métier, tu connais vraiment bien le marché. Tu veux pas nous recruter, notre VP Sales, vu que tu sais ce qu'on veut et qu'on s'est parlé longtemps et que tu connais notre culture et qu'en même temps, t'es physiquement en Amérique et donc tu connais. Et donc, il nous a recruté notre VP Sales, un peu en freelance et tout. Et après, il m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi? Moi j'ai bien aimé ce que j'ai fait avec toi là, et en fait du coup ben, je vais pas aller chez toi, je vais quand même quitter la boîte où je suis actuellement et je vais créer ma boîte de recrutement. Et aujourd'hui il a une boîte de recrutement spécialiste dans pour les Français qui cherchent à recruter des équipes commerciales en Amérique du Nord.
Et voilà, si vous avez besoin d'un contact,
donc Victor Vatus,
envoyez un petit message à Jean-Samuel. Ok, ah, mais super, super. Et tu m'avais dit aussi un autre truc là par rapport aux US, mais j'ai une question là qui me vient. En termes de perception, quand tu es une boîte française, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des actions particulières au-delà, tu vois, comme tu l'as dit, un go-to-market qui est très spécifique, mais en termes de perception aussi, comment est-ce que tu bosses là-dessus?
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Est-ce que en fait, on a un handicap en tant que boîte française quand on va là-bas, tu vois, que ce soit en termes de préférence, de solutions?
Ah ouais, ouais. T'es français, hein. Je te donne le choix entre un SaaS français et un SaaS, turc, par exemple. Tu prends lequel? Si ça fait à peu près la même chose et que tu n'as pas le temps de regarder en profondeur, même si le turc il est un tout petit peu mieux, hein, mais comme tu ne le sais pas parce que tu n'as pas tout regardé, tu prends lequel? Tu prends le français. C'est pareil.
Ouais, mais là, tu vois, par exemple, je vais pousser un petit peu l'exemple, tu vois. Mais potentiellement, on peut se dire qu'entre un produit français et turc, il y a peut-être un décalage déjà en termes de culture, etc., mais qui est peut-être un peu plus marqué qu'entre les US et la France.
Ouais, mais non, justement. Ouais. En fait, non.
Non.
Déjà, le décalage, je pense que le décalage culturel réel, il n'est pas forcément beaucoup plus petit. Peut-être un petit peu, j'en conviens, mais pas forcément beaucoup plus petit. Mais surtout, le décalage perçu, c'est ça, en fait. Et ça, c'est ce qu'on ne se rend pas compte. Le décalage perçu, c'est celui-là, en fait. Il y a une vraie préférence nationale aux US. En France et en Europe de l'Ouest, c'est un gros mot. La préférence nationale aux US, c'est normal, en fait. Donc, on préfère des produits américains. Mais pourquoi faire autrement, en plus? Déjà, ils sont un peu nationalistes et t'auras raison, mais surtout, c'est parce que ils considèrent que leurs produits sont mieux, parce qu'ils sont plus forts, en fait. C'est des gens qui, en fait, et finalement, à force de le dire, ça devient vrai, qui, depuis la plus tendre enfance, on leur dit que c'est les meilleurs du monde. Et donc, ils pensent que leurs produits sont les meilleurs du monde. Et pourquoi ils achèteraient des produits dans des pays du tiers-monde tu vois, je caricature beaucoup, là. Mais je pense qu'il y a quand même, un peu cet effet-là. En France, ils nous trouvent sympas en tant que Français. Hein. Par contre, quand il s'agit de travailler avec un outil, ils vont préférer un produit américain, ouais.
Toujours sur le sujet de l'international, tu m'avais dit mais je pense que c'est pas que lié aux US, hein, mais même sur la partie Europe, tu m'avais dit que vous avez fait le choix de recruter à chaque fois des locaux, c'est-à-dire de pas forcément toujours avoir un bureau sur place, mais en tout cas adresser un marché étranger avec un local depuis la France, et ça faisait une grosse différence. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
important.
Là-dessus?
Je pense qu'il faut un local, c'est-à-dire le petit Frenchie qui parle avec son accent pas top, juste parce qu'il a écrit sur son CV anglais ou espagnol confirmé ou je sais pas quoi, ça marche pas. Enfin, je veux dire, si tu te fais appeler par un gars qui a un accent pourri et qui vient d'un pays qui a rien à voir avec le tien, tu vas moins bien l'accueillir. Et puis en plus, il faut connaître le marché, il faut comprendre le marché. Je parlais des US, c'est l'exemple extrême, mais même l'Espagne, qui culturellement est quand même assez proche de la France. C'est quand même pas la même chose. Donc, il faut cette compréhension culturelle, cette connivence culturelle et cette aisance linguistique aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir des gens qui sont natifs. Alors, ça veut pas forcément dire en Espagne, notre country manager, elle est pas espagnole. Elle est colombienne. Mais c'est culturellement, enfin, il y a moins d'écart culturel entre la Colombie et l'Espagne qu'entre la France et l'Espagne, tu vois. Et au UK, notre country manager, il est sud-africain. Et encore une fois, c'est des gens qui parlent la même langue. Et la langue, c'est hyper important, en fait. Ça crée une proximité culturelle, même si géographiquement, c'est très loin. Enfin, entre l'Espagne et la Colombie, entre le UK et l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de distance. Mais le fait de parler la même langue, ça change tout. Donc, c'est des gens qui vont mieux se comprendre, en fait, et qui vont mieux comprendre les marchés. Et ça, c'est important. Après, la question, est-ce qu'on ouvre tout de suite un bureau là-bas ou pas? On a fait un peu les deux, on a fait parfois même un peu les choses à moitié, enfin, on a un peu tout essayé. J'ai pas la prétention de dire que voilà, j'ai la bonne solution et que toutes les autres sont mauvaises. Je constate juste que ce qui a mieux marché chez nous, c'est quand on a commencé en France et qu'après, on a progressivement étendu là-bas. Sauf pour les US, parce qu'encore une fois, pour moi, les US, c'est presque une autre entreprise. Mais pour l'Europe, je pense l'Europe et le UK, Je pense que c'est important. Enfin, ce qui a le mieux marché chez nous, c'est on commence avec un local, mais en France, et ensuite progressivement en étant. Pourquoi ? Parce qu'en France, l'intérêt que la personne soit en France, c'est qu'il y a une bonne communication entre les équipes. Sinon, c'est des petites équipes, parce qu'on ne va pas recruter 50 personnes du jour au lendemain dans un pays loin. Du coup, c'est une petite équipe. Donc, une petite équipe qui est loin, tout le monde s'en fout, en fait, ici. Et donc, personne ne les écoute, personne ne leur parle, et ils se retrouvent isolés. Personne ne prend en considération leurs problèmes, personne ne prend en considération les spécificités des besoins de leur marché. Tout le monde s'en fout, et du coup, en fait, ils se parlent pas. Côté international, ils s'essoufflent ou ils font moins bien le boulot qu'ils devraient. Et puis nous, on est au courant de rien, on n'a pas l'information, etc. Le fait de les avoir au même endroit fait qu'il y a une communication qui est naturelle, qu'on se comprend, qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin pour leur donner les moyens de leur réussite. On apprend, on comprend. Ça nous permet après de réfléchir, de se remettre en question, d'évoluer, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Et selon ce qu'on vend, après, il y a nécessité d'avoir une présence locale ou pas. Je pense que sur notre marché, c'est entre les deux. Je pense que sur les comptes assez gros, c'est important d'avoir une vraie présence locale pour aller voir les gens, etc., etc. Sur les plus petits comptes, c'est moins important parce que toutes les ventes quasiment se font à distance. Donc ça va dépendre du métier, de plein de choses. Est-ce qu'il est nécessaire ou pas ? Moi, je sais que il y a des boîtes, ils ont juste des bureaux au siège et avec des petits drapeaux en fonction du pays qui servent et ils font tout centralisé. Nous, je pense qu'un modèle un peu hybride nous convient mieux. Mais je pense que ça, c'est pas une vérité absolue. En revanche, je suis persuadé que pour démarrer, je pense que c'est important d'avoir les personnes à côté. C'est en fait la communication informelle du quotidien, c'est hyper important. On a eu ce sujet sur le télétravail. Moi, je suis pas contre le télétravail, mais le 100% remote, c'est on perd des trucs quand même. Sauf les entreprises qui sont extrêmement bien organisées, qui sont conçues comme ça, pour ça, avec des gens qui veulent ça tous. Là, ça marche. J'ai des exemples de boîtes comme ça, mais je pense que la plupart des boîtes, elles ont besoin de ces échanges informels du quotidien pour mieux se comprendre et mieux évoluer, mieux se remettre en question, mieux progresser. Et ça nécessite une équipe sur place. Enfin, sur place, c'est-à-dire près des autres personnes qui développent le produit, qui développent le marketing, qui développent, etc., etc.
Sur cette première équipe, justement, pour toi, c'est quoi un peu les... Je dirais le il ressemble à quoi profil idéal pour ouvrir un pays? On dit souvent que c'est un entrepreneur bis.
C'est un peu un entrepreneur parce qu'il part quand même beaucoup de zéro. Et donc pour moi la qualité principale d'un entrepreneur c'est d'être acharné. Donc je pense qu'il faut un acharné. Je pense que c'est l'essentiel. Bon après il faut quelqu'un d'intelligent, d'humainement bien, etc., etc. De quelqu'un qui connaît un peu le métier. Quelqu'un qui a un peu d'expérience de management. Ça faut plein de choses. Mais ça c'est les classiques. Des bons managers. Mais je pense que là, il faut un acharné, en fait. Parce qu'au début, c'est hyper dur. Parce qu'au début, tu pars de zéro. Et tu te prends que des portes dans la gueule. Et donc, il faut un acharné. Et en plus, les gens t'écoutent pas aussi. Parce que même en interne, quand tu as besoin de petites adaptations de ton produit, de petites spécificités pour ton marché, ça veut pas dire de faire un produit qui a rien à voir, mais rien que des petits détails à changer. En fait, ouais, non, pourquoi on a toujours travaillé autrement? Pourquoi on va se fatiguer pour ton marché qui compte que dalle? C'est ça le problème. C'est qu'ils ont un marché qui, comme ils partent de zéro, c'est genre, ouais, tu fais combien de MRR, toi? Bah, je sais pas, 1000 euros. Ouais, ok, bah, nous, on fait 1000 fois plus. Donc, du coup, t'es pas notre priorité. Ouais, mais du coup, si c'est pas ta priorité un peu quand même, bah, le marché international, il décollera jamais, en fait. Donc, c'est à un moment, il faut enclencher la pompe et il faut surinvestir dans quelque chose qui ne représente pas beaucoup de revenus et c'est normal. Et pour ça, ben, faut aller se battre non seulement vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis de l'interne en fait. Et même si on est une boîte qui n'est pas spécialement politique, il y a cet aspect un peu politique quoi. Et donc, faut jamais lâcher l'affaire en fait. Et ça me paraît essentiel. Et donc, il y a ce côté un peu entrepreneur, ouais.
Entrepreneur acharné. J'aime bien la réponse. Je te propose de parler d'un autre sujet hein, qui est lié à ton hypercroissance, même si c'est encore work in progress, hein, mais on a parlé de ce focus revenu, là où avant, tu m'as pas parlé de focus revenu la première fois, c'était en off là, juste avant qu'on démarre l'épisode, ça, Mais la dernière fois, tu m'as dit, ouais, comment est-ce qu'on construit la croissance? C'était ça ma priorité. Ouais. Et donc, forcément, le revenu est lié à ça. Donc, aujourd'hui, où est-ce que tu en es là-dessus? C'était quoi un peu, c'est quoi tes gros challenges vis-à-vis du revenu? En sachant que, comme tu l'as dit, il y a des bureaux un peu aux quatre coins de l'Europe et des États-Unis, qui a aujourd'hui 39 nationalités, que vous êtes passé d'une trentaine à plus de 300. Enfin voilà, je suis très curieux d'avoir un peu tes insights là-dessus pour éclairer les founders qui ne sont pas encore à ce stade-là, mais qui arriveront peut-être.
Alors, il y a plein d'étapes donc, qu'on a dans le... Donc, dans cette phase d'hypercroissance hein, qu'on est allé chercher. Déjà, c'est de passer de 30 personnes à beaucoup plus et d'intégrer les gens très vite. Donc ça, c'est pas facile parce que humainement, c'est pas si évident. Et puis en plus, en termes de culture, on passe d'un management très direct et d'une communication très informelle à quelque chose qui doit être beaucoup plus structuré sans perdre l'âme et l'agilité de la boîte. Donc ça, déjà, c'est difficile. Après, le revenu aussi, notre spécificité, c'est que nos petits services dont je parlais tout à l'heure, là, ils se vendaient un peu tout seuls. C'est-à-dire, en gros, on avait un SEO plutôt réussi et on envoyait des mails quoi. Mais ça, c'est pas du commerce et c'est un peu du marketing, mais quand même, c'est quand même très réducteur. Hein. C'est pas du vrai marketing. Donc finalement, on avait et puis le support c'était très informel, c'était 2-3 personnes qui géraient ça plutôt bien d'ailleurs, mais c'était très informel. Ce qui veut dire que toute la partie sales, marketing, care, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Et ça tournait quand même. Et donc, alors que pour la tech et le produit, on a aujourd'hui presque 19 ans d'expérience sur la partie revenu, on a peut-être 4-5 ans d'expérience, pas beaucoup plus, quoi, avant que ce devienne quelque chose d'un peu sérieux. Donc déjà, il y a un décalage entre notre expertise tech et produit et notre côté un peu inexpérimenté. Alors, nos directeurs commerciaux, marketing et care et ops sont expérimentés. Mais la culture de la boîte est quand même une certaine inexpérimentation sur ces sujets qui sont essentiels parce que sans distribution, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, ça ne donne rien. Donc, le go-to-market, c'est clé, le revenu, c'est clé. Mais on a un décalage. Donc ça, c'est quand même notre spécificité. L'autre truc aussi, c'est que accroître très vite, avec en plus une culture où à l'origine de l'entreprise, on était une petite trentaine. Donc naturellement, en tout cas pour les gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, l'instinct, et en plus je pense que c'est naturel chez beaucoup de gens, l'instinct c'est de se regrouper à une petite trentaine, quoi. Donc ce qui veut dire que, le commerce va rester entre commerciaux, le marketing entre personnes du marketing, le support entre personnes du support, le CSM entre personnes du CSM, etc. Enfin, naturellement, on va moins communiquer entre les équipes, alors que c'est une de nos forces. En tout cas, c'était une de nos forces d'avoir cette capacité à vraiment parler tous ensemble. Et là, avec entreprise qui grossit et une culture où naturellement, on est plus à l'aise dans des groupes un peu plus petits, ça fait que ça cloisonne naturellement. Aussi, on est passé d'une économie où l'argent était massivement disponible, donc l'acquisition client se passait assez, je dirais pas facilement, mais dans de bonnes conditions, à une économie un peu plus dure. Donc du coup, quand c'est plus dur, les gens ont tendance à moins s'ouvrir, à se refermer un petit peu plus. Donc on se retrouve avec finalement une organisation où c'est plus difficile que les services se parlent entre eux, travaillent entre eux, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais ça serait mieux s'ils le faisaient plus. Et ça, retrouver ça, ça prend du temps, c'est difficile. Il faut faire parler des cultures qui du coup ont parfois un petit peu divergé. Et il faut les faire parler ensemble, il faut les faire construire ensemble. C'est une difficulté. Et ce que je trouve très bien, c'est que le CRO qui vient de nous rejoindre nous aide beaucoup là-dessus.
J'aimerais bien rebondir sur certains points, mais je vois au final que le temps a bien tourné. Je te propose de te poser peut-être une ou deux questions avant de clôturer l'interview. Toi, là, à titre perso, en tant que CEO, qu'est-ce que ça a changé pour toi de passer d'une boîte rentable avec peu d'employés à je lève, je crame du cash, j'embauche, je surinvestis. Non, mais quand je dis du je crame, ouais, tu vois ce que je veux dire, mais
tu gagnes. Ouais,
exactement. C'est plus le décalage, on va dire, en trésorerie. C'est pour ça que vous surinvestissez justement pour avoir le ROI plus tard. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Sur quoi ça t'a le plus challengé?
Alors, je pense que c'était une opportunité extrêmement intéressante et épanouissante à titre personnel et également pour l'entreprise. C'était aussi quelque chose pour lequel on n'avait pas trop le choix. Parce qu'encore une fois, si on n'avait pas une certaine taille, je pense qu'on aurait été marginalisé dans le marché. Donc, pour rester un leader sur le marché, c'était important de faire cette étape. Et puis, je pense que si je ne l'avais pas fait, encore une fois, à titre personnel, je pense que j'aurais regretté un peu de ne pas avoir saisi une opportunité qui ne se présente pas non plus 50 fois dans une vie, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il fallait le faire et que c'était bien de le faire. C'était à la fois indispensable et à la fois assez enthousiasmant. Cette phase-là, elle est moins dans ma culture et dans ma zone de confort. C'est vrai que moi, ma culture, c'est... il est sain et normal et constructif d'avoir des fonds d'investissement qui soutiennent une hypercroissance quand il y en a besoin. Mais moi, ce qui me paraît être un équilibre naturel, c'est d'avoir à court terme, parce que ça devrait se faire de manière brutale et ça serait dommage, mais plutôt à moyen long terme, et plutôt moyen terme que long terme d'ailleurs, un retour à un modèle de financement plus traditionnel, c'est-à-dire les clients payent des factures parce qu'on leur rend un service. Et ça nous permet de payer nos coûts, de payer les personnes qui travaillent avec nous, de payer les investissements qu'on a besoin, les prestataires qui nous accompagnent, etc. etc. Pour moi, c'est ça qui me semble le plus normal. Donc moi, je suis paradoxalement presque content que l'économie soit revenue à quelque chose d'un petit peu moins euphorique, à titre personnel. Quand c'était vraiment la grosse galère et qu'on ne savait pas où on allait, là comme les autres, j'ai pas trouvé ça formidable, mais la perspective, je ne sais pas si ça va finir comme ça, mais en tout cas, la perspective que l'économie soit plutôt revenue à la normale, avec, des taux d'intérêt, des multiples d'ARR dans les valos à peu près normaux, moi, je suis plus confortable. Parce que le problème, c'est quand il y a une hypercroissance et quand le pognon coule à flot, tu sais pas où t'arrêter, tu sais pas où mettre le curseur. Tu te dis, si tu le mets pas assez ambitieux, tu vas devenir un bouclard de garage et tu seras marginalisé sur le marché. Et si tu vas trop fort, tu risques quand même de planter ta boîte avec toutes les personnes qui sont avec toi. Donc, c'est assez inconfortable de pas savoir où mettre le curseur. Alors que là, finalement, on revient progressivement vers la rentabilité sans violence, sans casser ce qu'on a construit et sans avoir un impact négatif sur les personnes qui bossent avec nous. On fait ça en douceur, mais on revient progressivement vers un équilibre plus normal où tes investissements sont à peu près conditionnés par tes revenus. Et je trouve que tu sais plus facilement où naviguer. C'est moins incertain. Il y a moins de risques d'aller soit trop fort, soit pas assez fort. C'est mieux balisé. Donc moi, je suis plus serein dans ce contexte-là, même si je considère encore une fois que c'était indispensable et souhaitable et bien de faire cette étape. À titre personnel, et là ça c'est autre chose, c'est que moi je suis quelqu'un de plutôt dans l'échange informel, interpersonnel, c'est-à-dire prendre du temps avec une personne. Donc, je suis pas quelqu'un de très organisé. Donc naturellement, ma zone de confort, c'est plutôt 30 personnes. Voilà. 30 personnes parce que tu peux quand même faire des beaux trucs, pas comme quand t'es tout seul, et en même temps, la relation reste interpersonnelle, informelle, et fonctionne bien comme ça. Donc non, je ne suis pas dans la zone de confort, et c'est pour ça qu'il est important de s'entourer de personnes qui, eux, sont compétentes pour ça, en fait. Parce que c'est ça le chemin, le bon chemin pour la boîte, c'est de grandir, en fait. Pas de grandir aussi vite qu'on a grandi en 2020 et en 2021, ça non, parce que je pense que là c'est, enfin le, je pense que un, c'est plus nécessaire, Et deux, je pense qu'on n'a plus économiquement l'opportunité parce que l'argent n'est plus gratuit. En revanche, c'était nécessaire de passer par la pôle entreprise. Donc là, on va continuer à croître, mais un petit peu plus doucement. Enfin, un peu plus doucement. Attention, hein, on parle de croissance de chiffre d'affaires quand même très ambitieux. On va quand même faire de nombreux recrutements l'année prochaine. Hein, donc c'est pas, ça s'arrête pas. Mais en tout cas, on a un rythme qui est plus normal, qui permet de mieux intégrer les personnes, de mieux voir l'impact de nos investissements, etc., etc. Donc voilà, mais bref, toujours est-il que oui, moi ma zone de confort en termes de nombre de personnes est plus petite que l'organisation d'aujourd'hui, et l'organisation d'aujourd'hui me semble indispensable, souhaitable, bonne pour la boîte. Donc c'est bon pour le projet, donc c'est ça qu'il faut faire. Et donc le fait que ce soit pas ma zone de confort, bah écoute, un, c'est l'occasion d'apprendre, et puis c'est pas grave parce que l'idée c'est que on est une équipe, quoi. Je suis pas tout seul. On est une équipe, donc l'idée c'est de s'entourer de personnes qui eux aiment. C'est pas juste son confort, c'est aiment et spécialement l'organisation adaptée à cette nouvelle taille de structure plus grosse. Et c'est pour ça qu'on a fait les derniers recrutements dans ce sens-là, pour en fait pour s'entourer des personnes qui savent faire et qui savent faire bien ce que je ne sais pas forcément faire. En tout cas, pas aussi bien que l'exige la réussite de l'entreprise.
Ah, c'est une leçon d'humilité, quoi. Derrière, il faut comme tu l'as dit, accepter de dire qu'on n'est pas forcément la personne qui va pouvoir gérer tous ces sujets-là. Et c'est pas grave, encore une fois, comme tu dis, parce qu'au final, l'intérêt de l'entreprise prime. Et il y a des gens compétents autour et il faut leur faire confiance et après tout, ouais, c'est pour ça que tu les as recrutés. Donc,
ce qu'on m'avait dit, ouais, c'était ouais. Un jour, c'était quand j'avais juste avant même que j'entreprenne, c'était quelqu'un qui avait très bien réussi une très belle boîte, qui m'avait dit l'important c'est d'être bien entouré. Et je pense que c'est important. Et en fait, faut pas avoir peur de recruter des gens meilleurs que soi, en fait, parce que déjà intellectuellement c'est mieux, et puis pour le projet, pour l'entreprise, c'est mieux. Et puis en plus, on meilleur, c'est pas complètement. Enfin, ça reste, ça dépend des domaines aussi. Chacun garde ses domaines où il est très fort, et puis on peut pas être super, on peut pas être le meilleur en tout, ça a pas de sens. Donc, donc c'est normal que sur un certain nombre de sujets, y compris des sujets essentiels, on travaille avec des gens meilleurs que soi, et c'est bien. Je pense que c'est même indispensable, en fait. Et puis c'est enrichissant pour soi, pour la boîte. Et donc c'est vers là qu'on continue à aller. Et je pense que ça va être bien et ça va bien marcher.
Si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de Ringover, là, ça serait quoi ?
C'est un des projets que j'ai fait qui intellectuellement était assez intéressant, mais qui m'a coûté une blinde. Et en fait, on a créé un opérateur mobile à Mayotte, mais pas genre un MVNO, quoi. Non, un opérateur mobile, c'est-à-dire on a fait poser des pylônes, on a installé du matos dessus, on était l'opérateur, les antennes, le matériel, on l'a co-conçu avec un équipementier, on allait chercher un équipementier que personne connaissait, qui n'était même pas équipementier télécom, qui est juste un mec qui faisait un peu d'électronique, on allait les voir, on a co-conçu avec eux le matériel radio, tout le cœur de réseau, c'est de l'open source ou du fait maison. Et on a voulu réinventer la roue. On a voulu être à la fois opérateur mobile, à la fois tower company, enfin ceux qui installent les pylônes et toute la partie énergétique autour, etc. Et on a voulu à la fois être équipementier, quoi. C'est-à-dire être à la fois Orange, TDF et Nokia. Ça fait beaucoup pour une boîte où à l'époque on était une petite trentaine. Donc c'est bien de faire tout soi-même. Mais quand même, c'est bien de tenter. Le côté sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Je pense que c'est bien, c'est une bonne culture, mais il faut quand même être plus raisonnable. Et puis, je pense qu'on a voulu tout faire nous-mêmes et ça nous a pris quelque chose sur le time to market. Moi, je trouve ça important qu'on ait une maîtrise technologique de tout ce qu'on propose à nos clients. En revanche, parfois, il faut aller vite et on ne peut pas tout faire soi-même tout de suite. Donc, je pense que ce qu'on aurait dû faire, ça aurait été d'acheter des technos existantes, pas toutes les technos, mais au moins une partie qui prenne du temps à développer. Et puis après, progressivement, peut-être de les remplacer par des technos maison, mais de démarrer. À un moment, il faut se confronter au marché, il faut avancer. Time to market, c'est clé. Et aujourd'hui, du coup, on est plus équilibré sur Ingover. C'est vrai que parfois, à terme, c'est toujours notre techno à la fin. Mais au début, on commence parfois avec des technos tiers pour pouvoir démarrer vite et pour pouvoir servir les clients rapidement et leur donner satisfaction rapidement. Et pas juste attendre qu'on se fasse nos petits kiffs de techos chez nous. Et je pense que c'est bien de travailler pour le plaisir. C'est important. Je pense que c'est un moteur qui est essentiel et qui est pas un mauvais moteur. Mais il faut quand même pas oublier qu'à la fin, le but de la boîte, c'est quand même de servir des gens, quoi. Servir des clients. Et donc, du coup, la priorité, ça doit quand même être une certaine efficacité et un certain time to market. Et sur ce projet, on a voulu trop tout faire nous-mêmes. Et du coup, on a mis des années. Et on est arrivé trop tard sur le marché. En plus, ça nous coûtait beaucoup d'argent. On a sous-estimé le coût de ce métier-là. Et du coup, on a perdu énormément d'argent et c'est de l'argent qui, effectivement, aurait mieux été investi dans Ingover. Donc oui, un regret, mais après, bon, on a pris plein de trucs et maintenant, du coup, on maîtrise mieux le time to market. Ça nous permet de mieux dérouler notre roadmap technique sans pour autant renoncer à notre souveraineté technologique qu'on aime tant.
Un mal pour un bien.
Exactement. Non, on apprend toujours des choses d'un échec, mais là, c'est un échec qui coûte cher. Donc, c'est vrai que...
Ok. Merci de l'avoir partagé. Peut-être une dernière chose à nous partager. Est-ce que tu as une ressource, un outil à nous recommander, quelque chose que peut-être que tu recommandes à des amis, à des pairs, voilà.
Ouais, Ringover. Non, c'est un peu facile.
Il a osé.
Mais c'est vrai.
Écoute, merci beaucoup, Jean-Samuel.
Merci à toi
de t'avoir dans l'émission. Merci d'avoir partagé tes leçons avec nous.
Leçons, c'est un bien grand mot, mais ce que j'ai pu apprendre.
Les leçons, apprentissage, voilà. Je pense que ça peut quand même servir pas mal de founders et puis j'imagine voilà, s'ils veulent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn, par email, voilà. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Salut,
Jean-Samuel. À bientôt. Bonne journée, salut!
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, Seclet. Encore merci et à la semaine prochaine.